Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Il vous est présenté par Nanit Talani. Les femmes enceintes qui développent la pré-éclampsie sont aussi susceptibles d'être victimes de l'éclampsie. Celle-ci se manifeste par l'apparition d'une crise convulsive généralisée dans un contexte d'hypertension gravidique pendant la grossesse ou pendant la période postpartum. L'éclampsie survient donc habituellement comme l'une des redoutables complications majeures de la pré-éclampsie. C'est une urgence vitale pour la mère et l'enfant à naître, car elle peut inclure des convulsions ou un coma. En Afrique, l'éclampsie survient chez plus de 16% des femmes pré-éclamptiques. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les femmes les plus à risque? Quelles peuvent être les mesures préventives pour les grossesses suivantes concernant les femmes qui ont déjà développé une éclampsie? Quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et le bébé?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Elle peut faire un AVC, des délires, une rupture capsulaire, du foie. Elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie, la tête cérébrale. Donc, elle peut même mourir. Sur le bébé, là, c'est la mort fétale intra-utérine.
Pour répondre à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique, nous recevons au cours de notre programme Votre Santé, Votre Avenir, le docteur Maurice Soubou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Après cet entretien, nous vous proposerons Carnet de Santé présenté par Mouamadou Oumfa dans la seconde partie de ce programme.
Votre Santé, Votre Avenir, l'invité de la semaine.
Voici, chères auditrices et chers auditeurs, le moment de suivre notre interview avec le docteur Maurice Soubou. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour Manique.
Merci d'accepter de répondre à nos questions concernant l'éclampsie. Nous allons démarrer avec cette question de deux de nos auditeurs, Noël Garcive le Meilleur et Baron Jamal Laurent. Les deux veulent savoir qu'est-ce qui provoque l'éclampsie chez la femme enceinte.
Pour arriver à ce qui provoque l'éclampsie, je commence d'abord par vous dire ce qu'est l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une complication de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie que nous avons définie la fois passée comme étant une association d'une hypertension artérielle où on a le chiffre tensionnel supérieur à la systolique supérieure à 140 et la diastolique supérieure à 80, avec une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour et l'apparition des édèmes. Donc, c'est tout à fait triade qu'on définit la pré-éclampsie. Mais dans certaines sociétés savantes, il y a certains éléments spécifiques dont on avait parlé. Alors, cette pré-éclampsie, que c'est compliqué à une éclampsie? Une éclampsie, c'est quoi? C'est quand une personne fait une pré-éclampsie et que ça survient l'apparition de convulsions. Donc, chez une pré-éclampsie, quand elle convulse, c'est ça l'éclampsie.
Ok, mais docteur Morin, comment survient-elle?
Ça survient comment? On a dit la fois passée pour la pré-éclampsie qu'il y avait une hypertension. Cette hypertension est due à quoi? Il y a des enzymes comme la prostacycline qui est une enzyme de vasodilatation avec une thromboxane A2 qui est une enzyme vasoconstrictive. Alors, dans des grossesses normales, il y a eu un équilibre de ces deux enzymes. Maintenant, en cas de pré-éclampsie, il y a un déséquilibre. Il y a plus de thromboxane A2 que de prostacycline. Alors, le thromboxane entraîne une agrégation plaquettaire au niveau du vaisseau artériel. Alors, cette agrégation-là, c'est à fait qu'il y ait une hypoperfusion. Donc, le cerveau, tout comme on parlait de placenta maternel, sera hypoperfusé.
Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, docteur?
Alors, dès que le cerveau est hypoperfusé, ça tombe dans un état d'anoxie cérébrale. Il y a donc absence d'oxygène au niveau du cerveau. Comme ça, le corps réagit en convulsant.
Est-ce qu'une femme qui n'a pas fait de pré-éclampsie peut quand même développer une éclampsie?
Non. Chez une femme qui n'a pas fait la pré-éclampsie, ne peut une éclampsie. Une éclampsie, c'est une des complications phares de la pré-éclampsie. Ça ne concerne que les femmes enceintes, puisque c'est une maladie du placenta. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un défaut de vascularisation des artérioles spiralées au niveau du placenta. Donc la seconde invasion là fait défaut. Comme ça que le placenta est hypoperfusé. Cette hypoperfusion placentaire, or le placenta c'est l'organe d'échange maternel et fœtal, ça fait que ça libère les enzymes dont je viens de parler, qui sont de responsables de toutes les conséquences.
D'accord. Est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui développent ou qui ont développé l'éclampsie?
Oui, il y a toujours des patientes qui développent l'éclampsie. Comme nous avions dit, le patient qui ne vient souvent pas au CPN, aux consultations prénatales, puisque avant d'arriver à cette éclampsie-là, il y a des prodromes, quelques signes qui annoncent l'éclampsie, avant que la femme commence à convulser. Donc, elle vient vous dire, ou lors d'une consultation, vous voyez que la personne a des flous visuels, une diplopie, une vision double, des acouphènes, ou qu'elle ait une épigastralgie en barre. Avec ces signes-là, ça vient juste quelques jours avant l'apparition de convulsions.
Que faites-vous en ce moment-là?
Alors, quand une dame vous vient comme ça, vous savez prévenir. Vous lui donnez le sulfate de magnésie qui prévient l'arrivée de convulsions. Alors, une femme qui ne fait pas de CPN, et puis vu que ce n'est pas vulgarisé, quand elle fait une pré-éclampsie et qu'elle ne vient pas à l'hôpital, elle va faire certainement une éclampsie. On en a eu des cas, et plusieurs cas, nous pouvons dire, qui viennent de milliers un peu ruraux. Les dames qui ne connaissent pas de CPN, quand elle fait, par exemple, une éclampsie, elle est en train de convulser ou elle a une vision double pendant la grossesse. Elle développe ces prodromes-là. Vu qu'elle vit dans un milieu rural, on est en train de diaboliser ça. On dit que non, c'est une maladie, c'est un sort qu'on lui a jeté ou quoi. C'est que ça se passe dans le milieu rural. Alors, quand vous amène ces gens, des dames, elle vous vient dans un tableau tonico-clonique avec des fortes convulsions où elle est même déjà entrée dans la dernière phase, là, la phase 4, la phase des comas, et pour la récupérer, c'est un peu difficile. On en a eu des cas comme ça, de dames qui ne sont pas compliantes au CPN, aux consultations prénatales, ou au traitement qu'on leur donne de la pré-éclampsie. Quand vous ne suivez pas bien ces traitements, vous risquez de tomber dans cette complication.
D'accord. En dehors des convulsions, y a-t-il d'autres signes qui peuvent caractériser une éclampsie?
Oui, c'est ce que nous appelons les prodromes. Donc, la femme, avant qu'il y ait survenu de convulsion, la femme vous dira qu'elle a de troubles de vision. Elle peut avoir une vision double, une photophobie, ou soit elle vous dit qu'elle a des acouphènes, qu'elle entend des bruits dans des oreilles. Une autre vous dira qu'elle a des céphalées occipitales. Chez d'autres encore, ce n'est pas ces signes-là, c'est une épigastralgie là, en bas. Alors, quand une dame vous vient avec ces signes, si c'était une pré-éclampsie, qu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie, vous dites que là, c'est l'éclampsie qui s'annonce et vous prévenez ça en donnant du sulfate de magnésie. Chez des dames, quand elles ont ces prodromes, ces signes-là, qui ne reçoivent pas de sulfate de magnésie, elles vous viennent dans un tableau de coma ou dans un tableau tonico-clonique avec de fortes convulsions là. Et à ce moment-là, vous devez couper ça avec le diazépam et ou le phénobarbital. Ensuite, vous donnez le sulfate de magnésie. Et si elle était enceinte, vite évacuée. Cette grossesse-là, vous la couchez par césarienne et commencez à l'observer en soins intensifs. Quand vous faites une éclampsie comme ça, ça peut se compliquer. Il y a plusieurs complications qui peuvent arriver puisque le cerveau n'est plus oxygéné.
Quelles sont les autres conséquences qu'une telle situation peut entraîner?
Alors, certaines autres peuvent faire même jusqu'à faire l'AVC, d'autres jusqu'à en mourir, puisque tu feras une hémorragie cérébrale. À force de convulser, le petit vaisseau peut se rompre et tu commences à saigner au niveau de la tête, une hémorragie cérébrale, faisant un AVC. Chez d'autres, elle meurt même comme ça.
Vous avez répondu partiellement à une question de Jérémy Moubiaï, qui s'intéressait à la prise en charge de l'éclampsie. Quelles peuvent être les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et sur le bébé?
Sur le bébé, là, c'est la mort fœtale intra-utérin. Si elle commence à convulser, dans les minutes qui suivent, vous enlevez le bébé, puisque comme la maman n'est pas suffisamment perfusée, ce qui fait que l'enfant aussi sera en hypoperfusion, il va souffrir jusqu'à mourir. Comme le cerveau, c'est l'organe noble, il n'est plus perfusé, c'est que l'enfant aussi, là, il n'est plus perfusé. Alors, il aura une souffrance fœtale jusqu'à ce que l'enfant peut mourir. Si vous l'enlevez à temps, vous faites une césarienne à temps, là, vous pouvez sauver l'enfant.
On peut bien voir que l'éclampsie a des conséquences très désastreuses sur le bébé. Et qu'en est-il de la mère?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Comme j'ai dit, elle peut faire un AVC. Le fait que le cerveau soit privé pendant longtemps d'oxygène, elle peut faire des délires, elle peut faire une rupture capsulaire du foie, elle peut faire... Il y a plusieurs conséquences qui peuvent arriver chez la maman. Donc, elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie là, intracérébrale, être un poids pour la société. Donc, elles peuvent même mourir.
Le bébé, pour le sauver, l'unique solution demeure
une césarienne
rapide.
Oui, oui, une césarienne en urgence. Quand les convulsions commencent, mais si la dame a déjà commencé à convulser il y a plus de 30 minutes et que la dame vous vient après en catastrophe, là, l'enfant a déjà souffert et est déjà parti. Là, vous pouvez même faire la césarienne juste pour sauvetage maternel et l'enfant sera déjà décédé.
Quand une femme a déjà fait une éclampsie, cela signifie-t-il qu'elle va encore en être victime pour les grossesses à venir?
Chez une femme qui a déjà fait une éclampsie, elle a vraiment un haut risque de refaire ça. Mais ce n'est pas pour toutes les grossesses. Dans les consultations prénatales, nous pouvons prévenir chez ces dames pareil. Quand elle vient comme ça, vous lui donnez de l'aspirine junior, question de prévenir, et vous faites une surveillance de sa tension artérielle. Quand il n'y a pas ces mesures, elle peut le refaire. Elle est vraiment à haut risque de refaire encore une pré-éclampsie ou une éclampsie. Donc, elle peut le faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après l'accouchement, elle peut refaire cette éclampsie-là. Lors des grossesses ultérieures, disons.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour éviter que les femmes fassent l'éclampsie pendant la grossesse ou après la grossesse, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez?
Les mesures préventives que nous mettons en place, premièrement, c'est quand la dame a déjà fait une pré-éclampsie, quand c'est sévère ou modéré, vous donnez directement le sulfate de magnésie. Quand vous le mettez en perfusion par 24 heures, ça couvre la dame, vous verrez que ça prévient les convulsions en fait. Donc la dame ne va pas convulser. Et pour vous traiter son hypertension là, et vous lui donnez de l'aspirine junior. Quand vous observez ça et vous faites une surveillance là avec expectative armée, chez cette dame-là, elle ne fera pas d'éclampsie. Mais lorsque vous lâchez ou lorsqu'elle n'a pas fait ses consultations prénatales, elle n'a pas été éduquée pour mieux suivre l'évolution de sa grossesse ou mieux la surveiller, là, elle peut être susceptible de le refaire.
Y a-t-il des femmes enceintes qui sont plus à risque par rapport à d'autres?
Oui, les femmes à risque, c'est les femmes qui peuvent faire une pré-éclampsie ou une hypertension artérielle s'y rajouter. Donc, la femme qui était hypertendue avant la grossesse, elle peut le développer. Ou une femme qui a fait une pré-éclampsie ou chez certaines femmes avec obésité ou on peut dire ça, avec obésité, ils sont susceptibles à faire ça. Ou diabète gestationnel, chez une femme qui a fait une diabète gestationnelle ou qui est diabétique, et c'est fort probable qu'elle fasse ça. Ce genre de grossesses, nous les surveillons dès les débuts.
Okay. Docteur Sungu, si nous prenons 100 femmes que vous suivez, il y en a combien, par exemple, qui pourraient développer une éclampsie?
Chez les femmes que nous suivons, par exemple, si nous prenons cette année 2021, depuis le début, j'ai déjà eu une dame seulement qui a fait la pré-éclampsie. Il y avait la non-observance du traitement qu'on donnait, le traitement anti-hypertenseur qu'on lui donnait, puisqu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie. Quand nous lui avons demandé de prendre le produit, de surveiller la tension, si elle pouvait le prendre à la maison, elle avait ces moyens-là, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, on l'avait amenée dans un état tonico-clonique. Après, elle a fait même un AVC. Depuis 2021, janvier, il y a une dame, mais ce n'est pas très fréquent en ville ici. Ce n'est pas très fréquent puisque nous faisons des CPN, mais les femmes qui nous viennent de milliers un peu réguliers, rurales, là, C'est là que c'est trop fréquent, qu'elles ne font pas de consultation prénatale.
Mais est-ce que cette femme, elle a pu garder son bébé?
Oui. Donc, quand elle est venue, elle venait dans les 30 minutes qui suivaient la première convulsion et nous avons fait une césarienne d'urgence. Et là, elle est en train de récupérer ses membres petit à petit. Ah. C'est au mois de février, mais là, elle essaie de marcher. Et vous voyez quand même le séquel d'AVC là.
C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette femme, malgré l'éclampsie, ait pu récupérer son bébé. Vous venez aussi de dire, docteur, que les femmes rurales sont celles qui sont le plus susceptibles de développer une éclampsie parce qu'elles ne font pas le suivi prénatal comme il se doit. Quels moyens de sensibilisation mettez-vous en œuvre pour ces femmes-là?
D'ailleurs, c'est le gouvernement qui met les moyens. Le gouvernement met les moyens en jeu pour que le médecin vulgarise cela et fonde des CPN gratuitement. Que le médecin aille même dans des milieux reculés afin de voir ces femmes, tout ça, c'est le gouvernement qui doit les faire. Mais nous, dans notre milieu, le gouvernement ne le fait pas encore. C'est que nous-mêmes, le médecin, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas le faire de lui-même. Ça, ce sont des structures qui viennent en appui à des centres de formation médicale pour vulgariser cela.
À votre avis, docteur, qu'est-ce qui doit donc être fait pour mener une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation, afin d'éviter des situations qui conduisent à des drames comme l'éclampsie?
Pour éviter qu'on en arrive là, pour nous, on demande aux bienfaiteurs, d'abord premièrement au gouvernement congolais, aux africains, disons, de soutenir leurs structures sanitaires. Le gouvernement doit nous soutenir dans cette démarche-là. Et à part le gouvernement, le bienfaiteur, les ONG qui peuvent venir et soutenir, puisque les médecins sont toujours disponibles pour vulgariser, mais faute de moyens, on ne sait pas donner plus que ce que nous faisons.
Ok, pour terminer, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les femmes enceintes, mais aussi à leur entourage? Parce que je crois que l'entourage a aussi un rôle à jouer.
Oui, l'entourage a un rôle à jouer. Surtout quand une femme est enceinte pour la première fois ou pour la deuxième fois, quand elle vient souvent, ce genre de femmes-là, elles vous disent « Non, ma maman m'a dit ceci. Oh, telle qui avait eu une grossesse avant moi m'a dit ceci. » Alors, pour cet entourage-là, nous disons que quand une femme a une grossesse, il faut lui demander d'aller à l'hôpital d'abord, premièrement, pour qu'on confirme cette grossesse. Deuxièmement, qu'on fasse un calendrier de suivi de cette grossesse-là. Ça, c'est pour l'entourage. Ils doivent encourager nos femmes à venir dans des structures sanitaires.
Et à la femme enceinte?
Pour les femmes enceintes elles-mêmes, qu'elles viennent en consultation, c'est tout. Qu'elles viennent en consultation et qu'elles apprennent à prendre et à prélever la tension, l'automesure, là, c'est une bonne chose. Quand elle se reconnaît hypertendue ou quand elle commence à développer l'hypertension au cours de la grossesse.
Ok, merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, Nanit.
C'était notre entrevue avec le docteur Morin Sungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Cinquantenaire et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Maintenant, place à Carnet de santé avec Mouamadou Oumpa.
Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur le syndrome de Down, encore appelé trisomie 21. Il s'agit d'une anomalie génétique caractérisée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte. Nous vous emmènerons au Mozambique à la découverte d'une personne atteinte de trisomie 21. Nous avons consulté un spécialiste sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de trisomie 21. Le directeur du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies nous parlera de quelques leçons tirées de la pandémie de COVID-19. C'est dans cette émission le Carnet de santé. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Le patrimoine génétique humain est composé de 46 chromosomes, 23 chromosomes issus de l'ovule et 23 du spermatozoïde. Parfois, il se produit un accident génétique lors de la formation de l'ovule ou du spermatozoïde qui, au lieu d'être formé de 23 chromosomes, en possède 24 du fait d'un chromosome 21 supplémentaire. Lors de la fécondation, la cellule formée comporte donc 47 chromosomes au lieu de 46. Cette anomalie, c'est le syndrome de Down ou trisomie 21. Selon l'ONU, chaque année, environ 3000 à 5000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique dans le monde. Les personnes atteintes souffrent souvent des problèmes liés au développement intellectuel et du langage. Elles peuvent aussi présenter des traits physiques inhabituels. Nous vous amenons au Mozambique, dans l'univers d'une personne atteinte de trisomie 21. C'est dans ce reportage de Serge Nambi, relaté par Nani Talani.
Ici, dans le quartier de Bagamio, dans la ville de Maputo, nous découvrons l'histoire d'Irène, une jeune fille de 19 ans atteinte du syndrome de Down. Selon les centres américains de contrôle des maladies, le syndrome de Down ou la trisomie 21 survient lorsqu'une personne naît avec un chromosome supplémentaire. Palmira Antonio, la mère d'Irène, dit que c'est dans le premier mois suivant sa naissance qu'elle a remarqué que sa fille était différente.
Lorsque nous sommes allés voir le médecin pour savoir ce que ma fille avait, il nous a dit qu'elle n'était pas la seule enfant atteinte de cette maladie. Il nous a recommandé d'aller en thérapie. Il a également dit qu'il y avait d'autres enfants là-bas, certains dans une situation bien pire. Il a dit qu'il pouvait compter sur elle pour marcher. Notre enfant aurait du mal à communiquer, mais elle marcherait.
Irène n'est jamais allée à l'école et interagit rarement avec les autres. Elle avait même des séances de thérapie à l'hôpital, mais a arrêté en raison de difficultés financières.
On allait à l'hôpital central où on nous donnait des jouets et on nous ordonnait de nous déplacer d'un côté à l'autre. C'est tout. J'ai fini par me fatiguer. Je ne pouvais plus travailler. Je n'avais pas d'argent pour payer. Ce n'était pas facile non plus d'avoir un copain ou un mari avec Irène tous les jours.
Chaque année, environ 3000 à 5000 enfants naissent avec le syndrome de Down ou la trisomie 21 et sont soumis à divers défis, principalement dans les pays en développement, estiment les Nations Unies.
Il y a beaucoup de défis et j'ai mal au cœur. Elle a 19 ans et elle est encore pratiquement un bébé. Parfois, nous devons la porter. J'ai une petite entreprise, mais je dois toujours rentrer à la maison pour la surveiller. C'est une situation compliquée. J'ai mal au cœur quand je vois d'autres enfants courir partout.
La coopérative Luana Semeya Soreros a été créée en 2017 à Maputo, la capitale mozambicaine. Elle agit dans la diffusion d'informations et de la sensibilisation sur les maladies rares et mentales dans le pays, ainsi que dans l'automisation des femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux.
Avant la pandémie, les mères venaient ici et laissaient leurs enfants parce que certains d'entre eux travaillaient. Ceux qui restent dans la coopérative ont des activités et des formations.
Les Nations Unies affirment que des organisations comme Luana Semeya Soreros sont importantes pour que les personnes atteintes du syndrome de Down aient une qualité de vie optimale.
Nous venons de le voir, vivre avec la trisomie 21 est souvent un vrai défi, non seulement pour les personnes atteintes, mais aussi pour leur entourage. Néanmoins, ces personnes peuvent atteindre une qualité de vie optimale lorsqu'elles bénéficient d'un bon suivi psychosocial et médical. Les experts insistent sur l'inclusion de ces personnes dans la société. C'est aussi l'avis de notre expert du jour, le docteur Abdoulbaki Aliru Bachir, psychothérapeute à l'hôpital universitaire Aminu Kano au Nigeria.
Toutes les anomalies physiques que nous voyons, le syndrome de Down ou trisomie 21 est associé à l'anomalie chromosomique. Ainsi, le syndrome de Down est une maladie génétique. Il est normalement diagnostiqué pendant la vie intra-utérine durant la grossesse. Vous pouvez faire des tests génétiques et trouver ce chromosome 21 supplémentaire. Normalement, vous ne pouvez pas l'empêcher. La seule prévention est l'interruption de la grossesse, ce qui peut normalement se produire dans les pays développés. Mais nous ne la pratiquons pas autant parce que même la cellule d'amniocentèse ou les tests d'ADN ne sont pas disponibles ici. Vous ne pouvez donc pas le détecter ici avant l'accouchement. Lorsque vous voyez des caractéristiques physiques telles que le petit visage rond et plat, les oreilles basses, les petits pieds, le cou court et d'autres caractéristiques physiques d'une personne atteinte de syndrome de Down. En dehors de cela, les autres caractéristiques que vous pouvez trouver chez un patient atteint du syndrome de Down, c'est l'affectation cardiaque. Ils peuvent souffrir d'obésité et de dépression. Ils ont aussi des fonctions retardées comme s'asseoir, se tenir debout, marcher. Alors, quand ils vont en thérapie, par exemple, ils viennent pendant 4 heures pour faire de l'exercice et faciliter ses capacités fonctionnelles. Il englobe beaucoup de professionnels de nombreuses spécialisations. Le plus grand défi pour les personnes atteintes du syndrome de Down en Afrique est la question de l'inclusion sociale. Elles sont négligées par leurs familles, leurs amis et la société en général. Ici, normalement, il n'y a pas d'école spécialisée pour eux. Ils doivent être inclus. Ils devraient être mis dans une école d'enfants normaux. Ils devraient être traités comme les enfants normaux et être inclus dans les activités normales de la société. Ils peuvent grandir, se marier, aller à l'école, avoir un emploi et aussi participer à des activités sportives comme tout le monde. Le gouvernement devrait les reconnaître comme des êtres humains normaux et les envoyer à l'école. Les enseignants des écoles doivent être formés pour prendre soin car ce sont des personnes spéciales. De plus, les familles devraient investir en eux. Ils peuvent avoir un niveau intellectuel qui n'atteint peut-être pas celui des personnes normales, mais avec l'inclusion, ils ont un développement presque normal.
Comme vient de nous l'expliquer l'expert, les personnes atteintes de trisomie 21 ont souvent besoin d'être bien entourées, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans certaines sociétés où le recours à la médecine traditionnelle et aux pratiques mystiques est fréquente. Nous avons demandé à certains téléspectateurs de nous dire ce qu'ils feraient s'ils devaient vivre avec une personne atteinte de trisomie 21. Voici quelques réactions recueillies sur les différentes plateformes numériques de VOA Afrique. Bouba, depuis le Cameroun, nous a dit « J'avoue que ce genre de maladie que l'on ne connaît pas beaucoup et qui a des effets bizarres sur les gens me ferait peur. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut bien sensibiliser les populations pour éviter d'isoler les malades. » Prosper Ndjamena au Tchad a écrit « J'ai entendu parler de cette maladie dans mon cours de sciences au lycée, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui en souffre. Si j'ai affaire à une victime, je vais lui apporter tout mon soutien. Choisis pas de venir au monde avec une telle maladie. » Sissoko de Bamako au Mali a réagi. En réalité, si on cherche bien, il y a beaucoup de victimes en Afrique. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne font pas les tests pour savoir s'ils sont atteints ou pas. Donc la sensibilisation est importante. Dès la naissance, si on sait déjà que son enfant a ce problème, c'est plus facile de l'aider. Parlons à présent de la pandémie de COVID-19 sur le continent africain. Selon le bilan le plus récent établi par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, 11 millions et 300 000 cas positifs ont été recensés depuis la découverte du premier cas pour un total de plus de 250 000 décès. Si l'Afrique reste largement moins touchée que les autres continents, cette pandémie a beaucoup affecté les systèmes de santé et révélé leurs insuffisances. Sur les leçons à tirer, voici les explications du Dr John Kengasong. Il est le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.
Le continent africain doit adopter le concept de souveraineté sanitaire, sinon d'autonomie de sécurité collective, ce qui signifie qu'il doit examiner des domaines clés. L'un consiste à promouvoir le secteur manufacturier, ce que nous appelons des produits de sécurité sanitaire, c'est-à-dire les diagnostics d'équipements de protection individuelle, les vaccins et les produits thérapeutiques. Le second point est la main-d'œuvre, qui mèneront à l'innovation, qui peuvent créer des vaccins, des diagnostics et des thérapies. C'est très important.
Nous voici au terme de ce programme hebdomadaire Votre santé, votre avenir. Nous avions reçu le docteur Maurice Soungou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Shukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a expliqué, entre autres, quelles sont les répercussions de la crise des clampsies sur la maman et le bébé, la prise en charge, mais aussi et surtout les mesures préventives contre les clampsies. Dans la deuxième partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Lino Moudou. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph.
Il vous a été présenté par Lani Toitalani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé